L'air frais, c'est sur Fréquence Mistral.
Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mandy Lerouge, chanteuse autodidacte ayant grandi dans les Hautes-Alpes et qui, en 2014, après un premier voyage en Argentine, tombe littéralement amoureuse de la culture argentine et des danses traditionnelles, le chamané, la chacarera, la samba, le tango, ainsi que des paysages du nord semi-désertiques et, plus tard, des paysages du sud beaucoup plus minérales. Mandy Lerouge se produira au théâtre du Briançonnais les 6 et 7 mars prochains et au Petit Duc à Aix le 8 mars. Mandy Lerouge, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu sors un nouvel album d'El Cerro le 7 mars prochain. Cet album part sur les traces d'Atahualpa Yupanqui et d'un certain Pablo del Cerro, un nom mystérieux, compositeur discret de la musique argentine. Peux-tu nous en parler ?
Alors, ce Pablo del Cerro, effectivement, il y a quelques années maintenant, en plein confinement, j'étais confinée à Marseille dans mon appartement, quelques semaines avant la sortie de mon premier album, La Madrugada, novembre 2020, et je réfléchissais un petit peu, même si l'album va à peine sortir maintenant, sur quoi j'aimerais travailler plus tard, après cet album, et j'avais très envie de travailler sur la poésie d'Atahualpa Yupanqui, qui est un grand poète, compositeur, musicien, chanteur, porte-parole des populations opprimées, qui est vraiment considéré là-bas comme un des pères du folklore argentin. Et ce qui m'a marqué lors de mes différents voyages là-bas, c'est qu'encore aujourd'hui, il est décédé en 1992 en France d'ailleurs, à Nîmes, mais encore aujourd'hui les enfants connaissent ses chansons, ça fait vraiment partie du patrimoine vivant en fait de l'Argentine. Et j'ai voulu creuser dans sa poésie chantée, mais plutôt celle qui parlait de la montagne ou plus largement des paysages, parce que je trouve qu'il a une manière très sensible de décrire les paysages, de parler aussi de l'attachement de l'être humain à des paysages ou à des endroits auxquels il tient. Et j'ai commencé donc à resserrer sur cette poésie-là, et plus je resserrais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait un nom qui revenait, qui était ce nom donc de Pablo del Cerro, dont j'avais jamais entendu parler. Donc je commence à demander aux Argentins autour de moi, mais qui est ce Pablo del Cerro ? Et aucun ne savait qui était ce Pablo del Cerro. Donc je me suis dit, si même les Argentins, les musiciens avec qui je travaille ne savent pas qui est ce Pablo del Cerro, il faut que je continue à creuser. Et c'est là que j'ai découvert que finalement, derrière ce nom de Pablo del Cerro, se cachait en fait une femme, la femme d'Atahualpa Yupanqui, une Française qui s'appelait Antoinette Pépin.
Alors, c'est au cœur du village de Cerro Colorado, dans le nord de l'Argentine, que tu es parti mener ton enquête musicale auprès de Roberto Chavero, fils d'Atahualpa Yupanqui, et comme tu le précisais tout à l'heure, et d'Antoinette Pépin, ainsi que par le réalisateur italien Francesco Garblo, qui filmera ce voyage. Peux-tu nous parler de ces lieux, des paysages, des lectures et des rencontres qui ont inspiré ton dernier album ?
Alors, ce dernier album d'El Cerro est vraiment consacré finalement à cette femme, Antoinette Pépin, et à sa double identité de Pablo del Cerro, puisqu'elle a donc composé certaines des plus grandes œuvres d'Atahualpa Yupanqui. Et quand je dis certaines des plus grandes œuvres, c'est celles que, encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les enfants chantent ces chansons. Je parle de Luna Tucumana, El Alasan, qui sont vraiment des musiques du patrimoine national en Argentine. Et encore aujourd'hui, peu de gens sont au courant de cette identité cachée et du fait que c'était une femme française qui finalement a composé la musique. Lui était bien à l'origine de tous les textes, mais elle de la musique. Et quand j'ai découvert son histoire, déjà, j'ai été prise d'un certain vertige, puisque étant moi-même française, sans aucune origine argentine, découvrir soudainement que on doit certaines des chansons que je chante depuis des années à une femme française qui est tombée en amour, elle aussi, pour l'Argentine, à peu près au même endroit que moi, dans le nord-ouest aussi de l'Argentine, et qui a dédié sa vie au pays, il y a eu comme un écho, un appel aussi d'en savoir plus sur cette femme. Et cet album est vraiment dédié à mettre en lumière son œuvre en tant que compositrice et aussi à aller chercher dans elle ses influences, puisqu'elle était pianiste classique de formation. Donc on a essayé d'aller creuser dans ce qu'elle avait pu composer pour des musiques populaires, du folklore argentin, on appelle ça, quelles ont pu être ces influences. Et donc je suis partie, effectivement, j'ai retrouvé la trace de leur fils. On parle d'un village qui est à 900 km de Buenos Aires, de la capitale, et j'ai trouvé la trace de leur fils Roberto Chavero, qui avait 75 ans à l'époque, et qui m'a reçu vraiment à bras ouverts, comme savent le faire très bien les Argentins, avec leur sens de l'accueil. Et il m'a accueillie, et j'ai voyagé pendant 2 mois en 2022, grâce à une bourse de recherche de l'Institut français de la ville de Marseille. Et j'ai pu passer donc du temps, non seulement dans le village, mais surtout dans la maison d'Atahualpa Yupanqui et d'Antoinette Pépin. Et là-bas, la maison a été transformée en musée, et leur fils, Roberto, m'a ouvert toutes les portes, mais aussi les portes des placards qui ne sont pas accessibles au public. J'ai pu me balader pendant des jours dans la bibliothèque personnelle du couple pour essayer de me plonger un peu dans leur lecture et essayer d'une certaine manière de les rencontrer sans jamais les rencontrer, essayer de m'imprégner un peu de tout ce qui imprégnait leur quotidien et pouvait peut-être les inspirer. Et cette maison, elle a la particularité donc, d'être dans ce tout petit village de Cerro Colorado, au pied d'une montagne, du même nom, donc le Cerro Colorado, montagne colorée littéralement, et entourée vraiment d'une nature assez sauvage. Il y a un petit ruisseau, une petite rivière qui passe le long de la maison, mais dès qu'on traverse cette rivière, c'est une forêt assez épaisse, épineuse, qu'il faut traverser au frais de pas mal d'égratignures sur les mains, sur les jambes. La nature a beaucoup repris ses droits aussi, et c'est des paysages qui ont vraiment inspiré leur musique et leur texte.
Alors, au fil d'aventure, ta carrière musicale te mènera au jazz et au trip-hop. Avant cela, tu as réalisé une formation d'ingénieur du son. Plus tard, ta rencontre avec Chango Spasiat, Raúl Barbosa Melingo, Minimo Garay et André Manoukian auront été déterminantes et auront influencé ta musique entre le jazz et la musique argentine. Peux-tu nous en parler? Quelles auront été tes autres sources d'inspiration?
Tous les noms que tu as cités, ça a été vraiment des grandes rencontres. Je commencerai par Chango Spasiuk, que je considère vraiment comme mon parrain d'une certaine manière dans ces musiques-là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en tant que public, en fait. Je suis allée le voir pour la première fois en concert en 2015. C'était quelques jours après les attentats de Paris. J'étais à Paris et je suis allée au musée du Quai Branly, assister à un de ses concerts un peu par hasard. Je n'avais jamais entendu parler du chamamé, qui est la musique du Nord-Est que lui joue à l'accordéon. Je parlais pas un mot d'espagnol et pourtant j'ai été complètement bouleversée par ce concert. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais envie de pleurer, chanter, crier, me rouler par terre, taper du pied, taper dans les mains, enfin voilà, tout ça en même temps, quelque chose d'assez puissant, on va dire, sans comprendre encore une fois les paroles. Donc c'était vraiment l'émotion véhiculée par la musique. Et un an plus tard, j'ai organisé à Marseille un festival dédié au folklore argentin, puisque c'est suite à ce concert et suite à mon premier voyage en Argentine un an auparavant, c'était devenu un peu une sorte d'obsession. Qu'est-ce que c'est que ces musiques populaires argentines? Et je l'ai fait venir à Marseille, à Chango Spasiuk, pendant une semaine. Il nous a accompagnés, il a partagé son art, sa culture. On a fait une rencontre à l'éolienne, on a fait une projection d'un de ses documentaires. Il anime des documentaires sur les musiques et les danses populaires de toute l'Amérique du Sud. On a fait une projection en sa présence et il a donné un concert à la Cité de la Musique de Marseille. Et en fait, il m'a invité à chanter. À ce moment-là, il a compris au fil de la semaine, alors qu'on parlait pas la même langue, que je m'étais prise d'amour pour ces musiques sans les comprendre aussi bien le texte que sans les comprendre parce que je ne les connaissais pas vraiment. Et je lui expliquais dans un très mauvais espagnol et avec beaucoup de gestes que je m'amusais à chanter par-dessus ces disques à la maison toute seule en fait, en phonétique. Et il m'a fait comprendre avec son mauvais anglais et beaucoup de gestes que le chamamé ne se chantait pas comme ça, toute seule chez soi, mais que c'était une musique de partage. Et donc, c'était comme ça qu'il m'a lancé l'invitation. Donc, la première fois de ma vie que j'ai chanté un chamamé, c'est avec un des plus grands représentants au monde de ces musiques, et c'était à Marseille. Et ça a été vraiment la graine plantée, on va dire, et le point de départ de mon envie de me consacrer à ces musiques-là.
Alors, le chamamé, juste une question, il le chante en espagnol ou plutôt en guarani, peut-être ou...
Alors, il y a les deux. Lui, ce qu'il a, les concerts auxquels j'ai assisté, c'était surtout de l'espagnol d'Argentine, donc c'est un peu différent de l'espagnol d'Espagne. Mais il y a dans le chamamé, effectivement, cette influence guarani, puisqu'on parle d'une zone de l'Argentine nord-est où il y a encore des populations guarani, et juste à côté, il y a quand même le Paraguay, où c'est la langue officielle au même titre que l'espagnol, le guarani. Et il y a souvent des mots qui ressortent. C'est pas forcément toute la chanson. Moi, je connais pas vraiment le répertoire tout en guarani. Mais en revanche, même quand c'est en espagnol, il y a souvent des mots qui vont venir quand on va parler d'un arbre, d'un animal, quand on va parler d'une femme, cuñataí, c'est la chérie. Enfin, il y a des mots comme ça qui vont apparaître dans l'espagnol. Donc c'est souvent métissé, comme l'est d'ailleurs cette musique.
Alors début 2020, tu retournes dans les provinces de Salta et Córdoba pour réaliser ton premier album nommé Madrugada. C'est bien ça?
Je pars c'est plutôt Corrientes. En 2020, j'étais Santiago del Estero et Corrientes surtout, et Misiones, donc nord-est et nord-ouest.
Et alors, tu es accompagné par Vincent Segal, c'est bien ça, qui a effectué
il a réalisé l'album. Je suis partie toute seule pendant deux mois en 2020 pour me renourrir, on va dire. C'était mon deuxième voyage là-bas après le premier qui était en 2014. Et j'ai passé 2 mois là-bas vraiment avec sac à dos, enregistreur, beaucoup à cheval aussi, au contact des gauchos, donc ce peuple cavalier argentin, gardien de troupeau. Et là, l'idée, c'était vraiment quelques mois avant d'enregistrer l'album La Madrugada, le répertoire était déjà presque prêt. Hein, c'était de me nourrir de ces cultures-là. Je me sentais pas de chanter une chanson qui parle, par exemple, du fruit du tala sans avoir goûté au fruit du tala. Ouais. Je me sentais pas de parler des épines, justement, des forêts sans avoir éprouvé moi-même. C'est pas une obligation. Je pense que c'est pas une obligation quand on est interprète. On doit être en mesure aussi de pouvoir interpréter des choses sans forcément les vivre. Mais moi, je sentais que j'en avais besoin, vu que c'est quand même une musique qui est très attachée, très reliée à des cultures, des traditions qui, encore 10 ans après, m'échappent. Je suis pas née, j'ai pas grandi dans ces cultures-là, donc j'apprends tous les jours. Mais il y a quand même un lien justement au peuple originel et des histoires tragiques. Donc j'essaye au maximum de m'imprégner de tout ça. Donc c'était vraiment l'idée de ce voyage en 2020. Et après, on a enregistré l'album en France, en région provençale, Côte d'Azur, magnifique studio de la Buissonne.
Écrin de la Buissonne,
ouais,
c'est ça.
Ouais, la Buissonne, qui est un studio incroyable. Et c'est Vincent Segal qui a fait la réalisation de l'album.
Donc Vincent Segal qui a fait la réalisation de l'album, Gérard De Haro qui a organisé du coup cette rencontre au studio.
Gérard De Haro c'est l'ingénieur du son aux oreilles d'or. C'est le patron de la Buissonne, c'est le fondateur et ingénieur du son vraiment merveilleux qui a à la fois enregistré et mixé l'album au studio de la Buissonne qui est son studio. Et Vincent Segal, non, je le connaissais de très longue date et c'est une des autres fées qui s'est penchée sur mon berceau.
C'est joli.
Quand je l'ai rencontré quand j'avais une quinzaine d'années et il a toujours suivi. Ça a été quelqu'un qui m'a poussé à quitter mon travail de bureau pour me lancer dans la musique.
Et du coup, dans cet album, il y a aussi Lalo Zanelli, qui est pianiste argentin.
Qui a signé tous les arrangements de l'album.
Javier Estrella, qui est percussionniste. Mm-hmm. Et Felipe Nichols, qui est lui un contrebassiste colombien.
Oui.
Et Melingo, qui est Melingo.
Melingo, c'est un chanteur argentin, acteur aussi, auteur-compositeur, qui vit en Argentine hein, et qui peut-être sa voix parlera au public français. Bon, il a une grande carrière en solo aussi, mais il a été notamment invité par Gotan Project à chanter sur quelques chansons, donc il a une voix très grave, très rocailleuse, magnifique voix. On l'appelle souvent le Tom Waits argentin, pour donner une idée.
Comment parvient-on à fédérer autant de personnes dans ce projet de grande envolée ?
Ouf. Ça a été d'abord des rencontres humaines. Disons que ça a été un peu un enchaînement, pas un hasard, mais un enchaînement en tout cas de rencontres que je pense que j'ai su saisir au moment où elles ont eu lieu, mais quand j'ai rencontré ces personnes-là, j'avais pas l'idée de l'album. Lalo Zanelli, je l'ai découvert. J'ai découvert son travail de compositeur et de pianiste avec d'autres, pour d'autres. Et je l'ai programmé en fait à Marseille dans le cadre du festival Jazz sur la Ville. Quand j'étais engagée bénévolement dans une association dédiée aux cultures argentines qui s'appelle La Rue du Tango à Marseille. Et donc je l'ai fait venir avec son quintette de jazz argentin, Ombu. Et donc il est venu jouer à la Cité de la Musique de Marseille et c'est comme ça que je l'ai rencontré vraiment physiquement, on va dire. Et qu'encore une fois, une graine a été plantée à ce moment-là. Et Javier Estrella aux percussions jouait aussi avec lui. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré les deux finalement. Et Felipe Nichols était dans le public ce soir-là, par hasard. Mais je le connaissais par ailleurs, parce que par d'autres groupes avec qui il jouait. Et une fois que tout ce groupe, on va dire, a été réuni, Lalo, le pianiste et le percussionniste jouaient déjà ensemble depuis une vingtaine d'années. Donc c'était facile, on va dire, de les réunir autour d'un nouveau projet. Et Felipe, le contrebassiste, avait très envie aussi de participer à l'aventure. Et quand j'ai demandé à Lalo Zanelli de faire les arrangements, pour moi, c'était un peu une évidence. Je voulais quelqu'un qui soit un peu un pont entre à la fois une grande connaissance des cultures argentines, mais au sens où il a vraiment grandi dedans. Il est argentin, il a vécu là-bas. Ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans qu'il est en France. Mais voilà, il a grandi dans ces cultures-là, il les maîtrise. Et en même temps, c'est un pianiste de jazz, il a une culture jazz, il s'est formé au jazz en France. C'est un grand compositeur. Et il pouvait être un peu le pont entre ces deux cultures, tout en étant un peu le garant du respect de la tradition. Même si moi j'avais déjà cette grande vigilance, mais il y avait en plus quand même cette vigilance native, on va dire, d'un Argentin.
Alors du coup, je te propose qu'on écoute l'un de tes morceaux, Samba de Lozano. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être juste avant?
Oui, Samba de Lozano, alors c'est Samba avec un Z, hein, rien à voir avec celle du Brésil en Argentine.
La samba
s'écrit avec un Z et c'est un rythme qui vient du nord-ouest de l'Argentine, la Samba. Et qui, au-delà d'être une musique, c'est aussi une danse sublime, une danse de couple qui se danse avec un foulard, un pañuelo, avec lequel on raconte une histoire, toujours une histoire de rencontre, mais qui peut être à la fois une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, des retrouvailles entre, je ne sais pas, un grand-père et son petit-fils, sa petite-fille, un frère et une sœur. Et c'est très poétique. Et il n'y a jamais de contact physique, en fait, dans cette danse. C'est très respectueux, c'est une danse d'improvisation. Et celle-là nous emmène à la Puna. Donc, c'est toute une zone de l'Argentine qui est sur les provinces de Salta, Jujuy, des hauts plateaux, l'Altiplano. Et je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'on peut se laisser porter par ce que véhicule la musique sans comprendre les paroles.
Allez, je vous propose tout de suite d'écouter Samba de Lozano de Mandy le Rouge.
Volveré los dólares solos. Samuel, toi que sé que el mar en tus ojos samba enamorada del carnaval. Sé que el mar en tus ojos samba enamorada del carnaval. Ramito se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabaqueña, ya mi caballito no puede más.
Merci beaucoup pour ce morceau, Mandy Le Rouge. Donc moi, c'est ce que je disais, hein, je t'ai découvert grâce à ce morceau et j'étais très ému. La première fois que j'ai entendu, et toujours d'ailleurs, ça me bouleverse pas mal, ça me transporte aussi. Est-ce que tu voudrais peut-être nous faire une petite vocalise en studio?
Oh waouh! Alors déjà, juste, je voudrais préciser, puisque comme mon travail, c'est principalement du collectage, donc c'est pas des chansons... dont j'ai la maternité. Je n'ai ni écrit, ni composé, ni le texte, ni la musique. Donc je voulais préciser que le texte était de Manuel Castilla et la musique de Gustavo Leguizamón, qui est un duo vraiment marquant des musiques populaires argentines. Et voilà, c'était important pour moi de le repréciser.
Tu leur rends un très bel hommage en tout cas.
Bah, merci. C'est une musique, en tout cas, cette chanson qui, moi, m'a bouleversée la première fois que je l'ai entendue aussi. Et on a eu la chance de, peut-être pour les auditeurs qui voudraient aller voir des images, d'aller tourner un clip qui, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. On l'a tourné justement avec Francesco Garbo, qui est un réalisateur à la fois de documentaire et aussi de cinéma, et qui m'a accompagné dans, qui m'a filmé dans cette enquête sur les traces d'Antoinette Pépin. Et on a profité d'être là-bas, en fait, pour aller en même temps tourner un clip. Et on est allé vraiment dans des endroits magiques. Je n'ai pas peur du mot, de l'Argentine, qui est dans cette province de Salta, où c'est un désert de pierre, de sel, où il faisait des températures, il faisait moins 13 degrés. Moi, je n'avais pas du tout prévu la tenue adéquate. J'avais ma tenue de scène habituelle. Et on...
Pendant le clip aussi?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, il fait moins 13 degrés. Et j'ai vraiment été confrontée à la puissance de ces éléments là-bas. Et c'était très beau parce qu'on était à plus de 3500 mètres d'altitude. Donc je danse et je chante sur le clip. Je chante vraiment, c'est une synchro, mais en tout cas je chante vraiment pour que ce soit réaliste. Et j'étais épuisée, j'avais pas de souffle, pas d'oxygène, froid terrible. Et j'ai trouvé que c'était important en fait d'être... encore une fois confronté aux paysages qui ont inspiré ces chansons et quelle est la réalité de ces paysages pour aussi les interpréter autrement. Après avoir en tout cas filmé ce clip, j'ai plus chanté de la même manière vraiment la chanson parce que j'avais vraiment cette mémoire physique de ce que c'est que cette hauteur, cette altitude, ce froid saisissant et cette beauté des paysages.
On n'imagine pas qu'il fait moins 13, hein, mais...
Allez voir le clip, vous comprendrez pourquoi il dit ça. Chanter quelque chose, mais oui, j'avais pas du tout prévu, mais pas de problème. Peut-être quelque chose, un petit clin d'œil au premier album, encore une fois. Il y a une chanson qui est très importante pour moi, El Cosechero, qui est une chanson peut-être la première avec laquelle le public a pu me découvrir aussi bien en France et surtout en Argentine. El Cosechero, c'est un chamamé, enfin un rasguido doble, la famille du chamamé, donc ça vient du nord-est. Celle-là, on la doit, cette chanson, à Ramón Ayala, qui a disparu il y a 2-3 ans maintenant. Regretté Ramón Ayala, grand poète, et donc El Cosechero, avec la voix du matin, désolé. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Merci.
Voilà.
Alors, ta musique transcende. Et bercé d'une leçon d'intelligence culturelle, il y a une élégance mélodique, des ballades qui rythment le trot des chevaux dont parlait tout à l'heure, les fameux chevaux des gauchos, et des chœurs qui s'emballent. D'où te vient ce goût pour les harmonies, les vocalises, ainsi que pour l'altérité et ce brassage d'influence ?
Waouh ! D'où me vient ce goût ? Je ne sais pas. J'ai grandi à cheval. Je ne sais pas si ça a vraiment un lien avec la réponse que je dois donner à cette question. Mais... En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui, je pense, a permis de faire un lien avec les Argentins et la culture argentine. J'ai grandi donc à cheval dans les Hautes-Alpes, dans des grandes étendues, plutôt côté col du Lautaret, parc national des Écrins, tout ça. Donc, des paysages assez différents du nord de l'Argentine. Mais ce lien au cheval m'a donné un lien à la nature et au paysage et à une certaine goût d'être dans une solitude... bénéfique, agréable et en même temps une solitude bien accompagnée puisque avec un cheval. Et quand je suis partie en 2020 en Argentine, je me suis rendu compte que le cheval c'était pas anodin pour découvrir de manière un peu plus immersive et intégrale les cultures argentines puisque les Argentins sont encore très très attachés au cheval qui est un compagnon toujours du quotidien dans beaucoup de provinces de l'Argentine. Et ça m'a permis d'ouvrir le dialogue, en fait, avec notamment les gauchos, chez qui j'ai passé du temps dans une estancia à Esquina, dans la province de Corrientes, qui est un tout petit village. Et c'est des personnes assez taiseuses, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont toute la journée à cheval, qui trient les vaches, c'est leur quotidien. Ils se lèvent très tôt, ils se couchent assez tôt aussi, mais ils sont confrontés au quotidien, encore une fois, aux éléments, à la difficulté du quotidien, à la pauvreté parfois aussi, au côté très reculé des campagnes en Argentine. Il n'y a pas de chemin de fer en Argentine, on fait tout soit à cheval, soit en bus, en car, de longue durée, etc. Et très vite, en fait, parler du cheval plutôt que de parler de soi, ça a ouvert des canaux de communication différents. Et une fois qu'on parlait des chevaux, par extension, on parlait des plantes, on parlait des animaux. Et une fois qu'on avait parlé de ça, on parlait des chansons du quotidien, des traditions culinaires. Et je crois que c'est, en tout cas, ça a été vraiment une porte d'entrée dans ces musiques-là. Et je parlais de la cuisine, des traditions culinaires. C'est pareil, les traditions culinaires m'ont ouvert d'autres portes. Parler de cuisine avec des Argentins, c'est être mêlé à ces grands asados, ces barbecues, qui est quand même presque un sport national là-bas. Et c'est quand la viande cuit que les chansons se transmettent, en fait, dans les familles. La viande est en train de cuire, et ça prend du temps. Donc on prend les guitares. On prend les accordéons, on prend ce qu'on a, les bombos, les güeros, les tambours, etc., les voix, et on se transmet, on chante, on s'apprend entre nous les chansons par transmission orale. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup touchée dans ces cultures argentines, c'est cette manière. Moi, je ne sais pas lire ni écrire la musique. J'ai été inscrite en cours de piano quand j'étais petite, traumatisée. Je fais partie de cette vague-là de traumatiser des cours de piano parce qu'on me menaçait de fermer le piano sur mes doigts si je me trompais à 5 ans. Donc, je suis vite sortie de ce système-là et j'ai tout appris à l'oreille. Et quand j'ai rencontré tous ces musiciens et ces gens qui ne se disent pas musiciens d'ailleurs, ils sont gauchos, ils sont comptables, ils sont banquiers, j'en sais rien, mais presque tous jouent de la musique parce que ça fait partie de leur quotidien et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une élite, en fait. Et ça m'a énormément touchée de me rendre compte une fois là-bas que moi, je sais pas lire et ni écrire la musique, mais en fait, ils s'en foutent complètement. Jamais ils vont me demander d'ailleurs, est-ce que tu sais lire ou écrire la musique ? Juste, ils vont chanter une chanson. Tu veux l'apprendre ? Répète après moi. Et ça, je trouve ça très beau comme manière de transmettre.
Alors, qu'est-ce que tu écoutais justement quand tu étais petite et en grandissant dans ta famille ?
Alors, Je suis la petite dernière d'une fratrie de trois et j'ai beaucoup d'écart d'âge avec mon frère et ma sœur. Donc j'ai eu cette chance de grandir dans leur... Dans leurs écoutes, en fait, en petite, entendre notamment beaucoup de jazz. J'ai beaucoup écouté Miles Davis quand j'étais petite parce que mon frère et ma sœur écoutaient. Surtout ça. Et en même temps, aussi du rock. J'ai des souvenirs de pochettes de disques, en fait, que je prenais dans la CD-tech de mon frère et ma sœur et je regardais les pochettes de disques. Et à partir de ça, j'allais écouter aussi avec eux les CD. De la musique classique aussi, puisque ma sœur a fait pas mal de piano classique. Donc, j'ai des souvenirs de découverte du boléro de Ravel. Par exemple, que ça a été pour moi quelque chose d'assez foudroyant par cette rythmique et ce crescendo infini, presque, enfin de plus de 20 minutes. Donc c'est assez varié, mais j'ai aussi des souvenirs de... Moi, je fais partie de cette génération alors de peer-to-peer et de téléchargement illégal, des débuts du téléchargement illégal. Et ça a été, je sais pas si je peux dire ça, mais ça a été salvateur pour moi qui vivais dans une ville de montagne éloignée de tout magasin de musique où il n'y avait pas de CD, il y avait un théâtre où il y avait quelques concerts, mais il y avait aussi d'autres choses, donc il n'y avait pas tant de concerts que ça. En fait, j'ai énormément téléchargé, oui, quand j'ai été au collège et que j'ai découvert cette possibilité. Et c'est comme ça que moi, je me suis fait ma propre culture musicale en allant piocher des choses que je ne connaissais pas et que j'écoutais. Et une fois que j'aimais, je demandais à mes parents après de me commander le CD. Et c'est comme ça que j'ai découvert Radiohead et que j'ai découvert beaucoup de chansons françaises, mais de cette époque-là, donc Arthur H notamment. Qui a marqué la suite, puisque grâce au disque d'Arthur H, j'ai découvert le travail de Nicolas Repac, qui a réalisé ce nouvel album, Del Cerro. J'écoutais beaucoup de chansons françaises anciennes aussi. Je me suis mise à chanter en écoutant du Edith Piaf, en chantant phonétiquement du Ella Fitzgerald aussi. Mais voilà, toute seule, enfermée dans le bureau de mes parents, quand j'avais entre 7 et 14 ans, quoi.
Alors, en préparant l'interview, en écoutant ta musique... ainsi qu'en regardant les clips et les visuels de tes clips qui sont très beaux, j'ai ressenti une quête d'immensité dans la voix, quête d'immensité dans ta musique, mais aussi dans ces paysages immenses de Salta, de la province de Jujuy, même si tu y es pas forcément passé, en tout cas sur ces clips là tu y as pas forcément tourné. Je suis allé à Jujuy et je m'y suis parfaitement retrouver en tout cas dans ta musique. Ça ressemble un peu à un pèlerinage à la recherche de l'absolue beauté. Est-ce une volonté de ta part ou une simple interprétation que je me fais?
Ou un peu des deux.
Non.
je ne sais pas si c'est une quête de l'absolue beauté ou en tout cas c'est vrai que tu parlais des immensités, des grands espaces. Encore une fois, je pense que c'est tellement quelque chose qui a bercé mon enfance de grandir dans à la fois des montagnes très proches. C'est vrai que Briançon, c'est une vallée assez étroite finalement, donc on a des montagnes qui sont assez écrasantes parfois, le soleil se couche très tôt, j'ai des souvenirs de rentrer du collège il y a 4 heures de l'après-midi, le soleil était déjà passé derrière les montagnes, donc on vit peu avec le soleil finalement, alors que finalement c'est des paysages grandioses hein, de montagnes. Mais très vite, quand on sort de cet endroit même de Briançon, on peut être dans des étendues plus ouvertes, des vallées plus ouvertes. Je pense au Champsaur aussi, qui est une vallée à côté, qui est peut-être plus ouverte que le Briançonnais. Mais je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin, même en étant à Marseille. On a vite fait d'avoir l'horizon dégagé, tout en étant en pleine ville. J'aurais pu partir à Grenoble après le bac, comme beaucoup de mes camarades de collège et lycée. Géographiquement, on part plutôt à Grenoble quand on vient de Briançon. Et moi, j'ai tout de suite été attirée, c'était une évidence de venir à Marseille, d'avoir à la fois ce côté montagne, entre guillemets, avec toutes les calanques et ces paysages de Marseille et alentour, et en même temps cette ouverture vers l'horizon de la mer. Et je pense qu'en tout cas, ça me tient à cœur sur les visuels, d'imaginer mon projet musical comme une globalité, pas être juste... entre guillemets juste, parce que c'est déjà beaucoup, mais de produire de la musique. Mais je pense que j'aime aller jusqu'au bout des choses et créer un univers global, en fait. Et quand on voit le premier album, La Madrugada, qui a son univers propre musical, qui est très différent du disque qui arrive, La Del Cerro, visuellement aussi, je voulais vraiment marquer un changement, non pas parce que je pense avoir changé, mais plus parce que je pense que c'est un projet, un univers dans lequel j'ai envie de plonger l'auditeur, mais que l'auditeur soit aussi spectateur, il y a La Madrugada, il y a eu un film qui est sorti. On a tourné un moyen métrage musical en paysage naturel de montagne dans les Hautes-Alpes. Sur Del Cerro, il y a déjà un mini documentaire et je suis en train d'écrire une série radio pour essayer de faire une immersion, cette fois-ci sonore, dans tout l'univers d'Antoinette Pépin en racontant cette histoire comme un carnet d'enquête. J'ai pris énormément de notes, j'ai fait beaucoup de dessins pendant ces 4 ans de recherche autour de l'histoire d'Antoinette Pépin. Et j'avais envie de raconter ça autrement et de se détacher un peu justement du visuel, de plonger, de laisser la place à l'imaginaire sonore en fait, enfin à l'imaginaire des auditeurs. Et ça me tient à cœur de créer ces univers toujours... plutôt très bien entourée, en tout cas pour les photos, c'est Anne-Laure Etienne qui signe encore une fois l'identité visuelle de l'album. Et elle a cette particularité d'aller énormément faire des photos en milieu naturel et à avoir des personnages qui sont là. Il y a une sorte de chose un peu intemporelle, on ne sait pas trop à quelle époque, on ne sait pas où. Le premier album, très souvent, les Argentins pensent qu'on a fait la photo en Argentine. Les Français aussi, d'ailleurs, pensent qu'on est allé faire la photo en Argentine, alors qu'on était au Colorado provençal, on était à Rustrel, parce que je voulais le faire, essayer de tout produire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de créer le flou. J'aime bien cette notion justement. Moi, je suis française, plein de gens vont projeter parce que je chante des musiques argentines et que je suis métisse, j'ai une peau mate. Ils vont dire ah, mais t'es argentine. Bah non, je suis pas argentine et c'est ça que je trouve beau aussi dans la musique, c'est que comme il n'y a pas de frontière qui peut arrêter la musique, je m'en saisis et j'aime créer ce flou autour de ces projets-là.
Alors, on en parlait tout à l'heure, le cheval du gaucho, les tentures et les habits traditionnels. Les salines, ces montagnes ocres du nord argentin, que ce soit, je parlais de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, San Isidro, Irusha, les grandes salines, qui sont un peu plus haut. Les montagnes beaucoup plus alpines ou minérales du sud patagonien que tu as découvert il n'y a pas longtemps. La présence de fleurs, de nombreuses fleurs dans tes clips aussi, dans l'un de tes clips du moins. Les couleurs omniprésentes qu'on retrouve dans tous tes clips ressemblent à une véritable célébration du vivant. Est-ce que c'est une volonté de ta part de vouloir célébrer le vivant ?
Bah merci déjà. alors, c'est pas une volonté, volontaire, j'allais dire, jolie. C'est pas, je me dis pas, je veux célébrer le vivant dans mes clips ou dans tout ça, mais je pense encore une fois que c'est un peu induit dans ces choix de répertoire où je vais quand même chercher. C'est pas moi qui donc écrit ni compose ces musiques-là. Donc je les sélectionne, je vais les collecter, je les sélectionne. Et le point commun de beaucoup, c'est quand même des descriptions de paysages, des rapports en tout cas à ce qui nous entoure, mais ce qui nous entoure moins au sens urbain qu'au sens naturel, justement. Et je pense que y a comme une boucle un peu qui se boucle, c'est-à-dire j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, j'en suis partie pour venir à la grande ville de Marseille. Ça fait 19 ans que j'habite à Marseille. Et en même temps, j'ai toujours ce besoin de revenir dans les Alpes et à ces étendues pour me reconnecter à moi-même et à plein de choses, aux éléments. Et oui, d'une certaine manière, c'est sûr, il y a une célébration du vivant parce que je pense que voilà, les répertoires que j'ai choisis sont déjà des célébrations du vivant et c'est déjà... Et c'est des choses, encore une fois, assez intemporelles puisque c'est des répertoires qui ont été composés entre les années 40 et 80, fin 80, on va dire. Et ça résonne toujours très fort aujourd'hui, je trouve, cette manière de parler à la fois des paysages naturels ou au contraire de ce que peut faire de mal un être humain ou des êtres humains pour des histoires notamment de guerre à cette immensité naturelle. Donc oui, il y a une célébration du vivant, c'est sûr.
Alors à présent, je te propose qu'on écoute la musique de ton dernier album qui va sortir le 7 mars prochain, Del Cerro. Est-ce que tu peux nous parler de la chanson La Tarde?
Oui, de cet album. La Tarde, c'est le premier single donc, de cet album. Et j'ai choisi celle-là comme premier single puisque contrairement à certaines chansons d'Atahualpa Yupanqui, comme je disais, c'est considéré comme un des pères du folklore argentin. Et il a vraiment des tubes, si on peut dire, des chansons que tout le monde connaît. Et La Tarde, je trouve que c'est vraiment un bijou. Et j'ai été assez étonnée de voir qu'en Argentine, elle est très peu connue. À chaque fois que je l'ai chantée, il y a toujours pas mal de retours de gens qui ne connaissaient pas cette chanson. Alors que je trouve vraiment que c'est un bijou, et notamment le texte qui parle justement La Tarde, ça veut dire l'après-midi. Et ça parle d'une description vraiment de fin d'après-midi. Moi, je l'imagine automne ou début d'hiver, donc quand la lumière file assez tôt et qu'elle est très rasante. Et ça décrit avec une poésie vraiment qui, moi, m'a bouleversée. Ces lumières, où il va dire, par exemple, que l'arbre étend son ombre comme si elle voulait s'échapper. Sur les champs, l'après-midi étend ses couleurs dorées. Bon, il le dit de manière beaucoup plus poétique, hein, en langue originale. Là, je suis en train de le traduire à la volée, c'est beaucoup moins beau. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et une mélodie très simple. Et c'est encore une fois des lumières qu'on peut vivre à la fois ici à Marseille. L'autre jour, j'étais au Mucem il y a quelques jours. Ben, sur l'esplanade, il y a ces lumières rasantes, très dorées qu'on a en bord de mer. À la montagne, on a la même chose en automne, fin d'automne, cette lumière rasante. Et ça peut parler à tout le monde et donc rassembler, je crois, aussi beaucoup de monde. Et nous, on a voulu lui donner une touche actuelle au sens où on est allé chercher à la fois Nicolas Repac qui a cette particularité de mettre des samples, d'aller chercher des samples anciens et les mettre, et on dirait que c'est des musiciens qui ont joué alors que c'est des samples. Et puis j'en dis pas plus, mais voilà, on a essayé de créer un univers en tout cas assez actuel.
Allez, on écoute tout de suite La Tarde de Mandy Le Rouge.
Vare juntando sus cobres sobre los campos la tarde alarga su sombra el árbol como queriendo fugar. Hacia los montes vecinos pasan volando las aves y la perdiz selva tímida ocultan los pajonales.
tarde. Mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire.
Alors, on parlait des paysages majestueux des Hautes-Alpes, mais aussi de la lumière aussi particulière à Marseille qui ont influencé ton œuvre. La Camargue a ses similarités avec les gauchos d'Argentine, parce qu'il y a quand même toute une culture gaucho, on pourrait presque le dire en Camargue. A-t-elle été, ou sera-t-elle un lieu de tournage, et est-ce que ça a déjà été un lieu d'inspiration pour toi ?
Oui, en fait, ça fait lien avec quand je disais que j'aime bien créer le flou entre est-ce que les photos ont été faites en Argentine, en France. C'est aussi le cas avec, en fait, ce que j'aime bien faire n'étant pas argentine et ne voulant absolument pas essayer de me faire passer pour une argentine. Ça n'aurait aucun intérêt, même dans ma manière de chanter, je veux dire, au-delà de physiquement et de créer le doute. Dans ma manière de chanter, je n'essaye pas du tout de faire exactement comme le font les Argentins et les Argentines. Ça n'aurait aucun intérêt, je n'ai pas baigné dans cette culture-là. Ils le font eux-mêmes magnifiquement bien, donc j'essaie d'y apporter ma touche tout en ayant cette conscience du respect que je dois à ces répertoires populaires et traditionnels et à tout ce que ça implique. Mais j'aime bien créer le flou et j'aime bien essayer, plutôt que de chercher les différences, chercher ce qui rassemble une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'entre la Camargue, ces étendues, ces grandes étendues, cette culture du cheval. Alors, Camargue, c'est plutôt du taureau, mais c'est les gardiens donc, qui ont cette culture du cheval et du taureau. Et là-bas, en Argentine, c'est la zone où vraiment le cœur de cette tradition gaucha, comme on dit donc des gauchos, c'est vraiment la province de Corrientes, qui est pareil, des grandes étendues. Alors, il n'y a pas la mer, mais c'est des grandes étendues et des lagunes. D'eau du coup douce.
Le Paraná, oui. C'est ça, hein.
Oui, oui, le Paraná passe par là, effectivement. Il y a aussi Los Esteros de Ibera, qui sont des grandes, immenses lagunes et parcs naturels avec énormément de faune, de flore. Là-bas, il y a des flamants roses, mais à bec plat, à cet endroit-là. Il y a cette culture du cheval et de la vache, plus que du taureau, mais en tout cas du cheval. Et c'est les gauchos et les gardiens. J'aime bien effectivement créer ce lien. Et il y a un des clips qu'on a tourné là-bas, Chacarera de un triste, qui était le premier clip de l'album La Madrugada, qu'on a tourné au Sainte-Marie-de-la-Mer, et où justement on a créé encore une fois ce flou entre je suis avec un cheval Camargue, qui est d'ailleurs sur la pochette, Aramis de Sauvagine, qui est le cheval d'un ami, et qui est dans le clip aussi.
Oui, ça me fait penser, dernièrement j'ai reçu un photographe qui s'appelle Morgan Miracolo, et qui a beaucoup photographié les cavaliers, les chevaux en Camargue. Et il essaie toujours ce flou, et c'était très suggéré. Où on est finalement ? Est-ce qu'on est ici ? Est-ce qu'on est là-bas ? Et ça, le ici et là-bas fera résonance avec la dernière musique que j'ai choisie pour toi tout à l'heure.
Peut-être.
Je pense que tu dois l'avoir. Oui. Alors, en plus de l'album La Madrugada en 2019 et de en 2020 et de l'album Del Cerro qui sortira là en mars 2025, tu as eu aussi d'autres projets, Confesiones del Viento, qui est une sieste musicale que tu as créée en 2019, et Miski Mayu, qui est un album de peña traditionnelle que tu as créé également en 2019.
Alors, il y a pas d'album, ça a été que des concerts.
C'est juste des concerts.
Ouais.
D'accord. OK.
Et tu veux que j'en dise plus, peut-être?
Oui, juste...
Oui, en fait, c'était deux petites respirations, entre guillemets, deux petits pas de côté. Confessiones del Viento, c'est une sieste musicale, mais que j'adapte en fait à chaque fois au lieu où je me produis. C'est-à-dire que j'essaye de passer un temps assez long, si possible, dans des paysages, encore une fois. Et l'idée, c'est un format court, hein, 40 minutes, le temps d'une sieste un peu longue. Et j'essaye de raconter une histoire et de partager des musiques populaires argentines en lien avec les paysages dans lesquels je suis. Notamment, j'ai fait une résidence longue dans le Parc National des Écrins, et de 6 semaines. Et on a pu donner cette sieste musicale inspirée du Parc National des Écrins l'année dernière, en 2023. Et Miski Mayu, c'est un trio avec Diego Trossman, qui est aussi dans Del Cerro, et Javier Estrella, à la percussion, qui est aussi dans Del Cerro. Et l'idée, là, c'est de se rapprocher vraiment de la manière traditionnelle d'interpréter ces répertoires populaires, mais aussi dans les lieux de diffusion. C'est-à-dire, j'essaie de trouver des lieux où on peut, comme en Argentine, une peña traditionnelle, c'est vraiment la fête populaire où on vient à la fois écouter de la musique, danser, mais aussi manger, boire des coups. C'est vraiment des lieux de rencontre, de retrouvailles et de partage. Et j'ai envie un peu de faire découvrir ça au public français et d'essayer de trouver des lieux partenaires où on peut se permettre ça.
Alors, ta démarche artistique du voyage, cette itinérance vers l'autre et la rencontre, cet hommage à la ferveur argentine et sa musique, ainsi que la célébration du vivant et de l'infiniment grand dont on parlait tout à l'heure, me fait penser à des artistes comme Ty Lacine, que tu connais peut-être, qui a composé un album nommé The Road, tournait exclusivement en Argentine dans sa caravane, où il se nourrissait des sons environnants, ainsi que des paysages et des voix rencontrées pour composer un album de musique électronique, presque organique et très réussi, je trouve. Un autre de ses albums transsibériens a été tourné à bord de ce fameux train ralliant la Russie d'est en ouest, et où les composantes essentielles de l'album sont les rouages du train, les voix des passagers, les rires, les conversations et les chants. Alors pourquoi je te dis ça? Juste, penses-tu t'inscrire aujourd'hui dans cette forme un peu de musique itinérante? Et si oui, y a-t-il des artistes qui t'ont inspiré?
Cela. En tout cas, c'est ce qu'on me dit régulièrement. c'est pas une démarche où je me suis dit je veux m'inscrire dans une démarche de musique itinérante, où on parle aussi d'artistes voyageuses parfois quand on parle de mon travail. Je crois que c'est un peu la convergence de tout ce que j'ai pu faire aussi avant de trouver le courage de me consacrer totalement à la musique. J'ai été ingénieure du son, j'ai été journaliste, animatrice en radio. Et je pense que tout ça, en tout cas, converge dans ce projet-là, dans Del Cerro particulièrement. Ça a été déjà le cas, La Madrugada, mais c'était peut-être un peu les prémices de cette démarche-là. Mais dans Del Cerro, c'est vraiment ce que je ressens. C'est parti d'une découverte. Et puis à partir de là, c'est vrai que j'emploie toujours le mot « enquête » sur les traces d'Antoinette Pépin, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça. Il y a eu... 4 ans presque, 3 ans en tout cas, vraiment intense d'enquête, de recherche, d'aller chercher des indices, d'aller collecter des témoignages au-delà de la musique, d'aller fouiller dans des cartons. Je suis même tombée sur une œuvre inédite et inachevée dans un des cartons qui était oublié depuis la mort d'Antoinette Pépin, donc depuis 1990, un carton qui est resté fermé depuis sa mort. Son fils ne l'avait jamais ouvert, il m'a confié l'ouverture de ce carton. Donc pour moi, il y a toute une démarche... à la fois de recherche, enquête journalistique presque, et aventurière, mais au sens où voilà, c'était une démarche, moi j'avais envie d'en savoir plus sur cette femme. Donc je pense que tout a convergé en fait, vraiment, à la fois j'ai toujours un enregistreur avec moi quand je suis en voyage, ça je l'ai gardé depuis que je suis ingénieur du son et journaliste plus tard. Donc c'est surtout ça, je crois, la convergence en tout cas entre tout ça.
Alors, tu te produiras les 6 et 7 mars prochains au Théâtre du Briançonnais. Tu viens de Briançon, justement. En quoi est-ce important pour toi d'y revenir à Briançon?
C'était très symbolique pour moi. Une première d'une tournée et une première d'un album, c'est toujours assez important, et même, n'ayons pas peur du mot, assez stratégique pour les artistes de choisir à quel endroit on le fait. Et souvent, c'est dans une grande ville, mais pas Paris, parce qu'il faut rôder. Enfin bref, il y a un peu cette logique-là. Et moi, j'avais surtout envie d'écouter mon intuition, qui était d'avoir envie de revenir au berceau, quoi, de venir chercher ces énergies-là. Et puis, il y avait quand même aussi ce côté un peu amusant de boucle qui se boucle, parce que le Théâtre du Briançonnais, c'est le premier plateau sur lequel j'ai posé un pied quand j'avais 6 ans, où je prenais des cours de danse et où voilà, j'ai dansé pour la première fois sur ce plateau-là.
Tu as toujours un partenariat avec le TDB ou pas? théâtre du Briançonnais.
Oui, mais ils sont. On va faire la résidence là-bas, la dernière résidence là-bas. On a fait différentes. J'ai animé un stage aussi au mois de novembre là-bas pour transmettre justement ces répertoires-là. Et ça me tenait vraiment à cœur, voilà, de pouvoir présenter en avant-première, puisque l'album sort le 7 et on fait un concert le 6. Donc il y a ce côté aussi avant-première à Briançon où les Briançonnais pourront se procurer l'album avant tout le monde sur place. Et puis pour aller plus loin, pour rappel, donc j'ai trouvé l'identité d'Antoinette Pépin et son existence et le démarrage du projet, c'est parce que je voulais resserrer sur la poésie de montagne d'Atahualpa Yupanqui. Et elle-même a choisi un nom, un pseudo qui s'appelle Del Cerro, de la montagne. Donc il y a quand même tout un truc de la montagne qui baigne ce projet et puis mon histoire personnelle aussi. Donc j'avais envie de revenir là. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Nicolas Repac, qui a réalisé l'album. Et je l'ai rencontré là quand j'avais 16 ans. Je me suis fait un auto-cadeau, je me suis acheté un billet pour voir Arthur H. en concert. Et après le spectacle, l'équipe du théâtre, que je passais beaucoup de temps là-bas, m'a présenté toute l'équipe d'Arthur H., dont Nicolas Repac, qui, pour la petite anecdote, a signé mon affiche en me disant « Bon anniversaire, par-delà les montagnes ».
Ah, waouh.
Donc, il y a comme tout un « sans chercher de ».
Des synchronicités.
Oui, voilà, exactement. Et ça nous
Exactement.
Un alignement qui, moi, me faisait beaucoup sourire et m'a touché, que j'avais envie de saisir. Et j'ai envie de continuer à raconter cette histoire avec cette ville dans laquelle j'ai grandi. Donc, ça me tenait à cœur de faire les premières et l'avant-première là-bas.
Alors, quels sont tes futurs projets, justement, et dans quelle montagne pourrons-nous te trouver ?
Contrairement à la Madrugada, où justement, deux semaines avant la sortie de l'album, je découvrais Pablo del Cerro et je commençais à penser à la suite. Là, j'avoue que ce répertoire-là, ce projet-là, était tellement prenant que j'ai aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant après. Mais ça ne m'inquiète pas dans le sens où ça a été tellement intense que je me suis vraiment consacrée totalement à ce projet-là. Et puis, je suis en autoproduction, donc c'est très intense au quotidien aussi. J'ai créé ma structure, le fil rouge qui porte la production de ma tournée, de l'album. Ça a été assez laborieux, cette production, beaucoup plus difficile que celle de la Madrugada, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, un contexte économique qui a changé. Et être artiste-entrepreneur, comme on dit actuellement, c'est de plus en plus dur. Donc, j'ai essayé de faire au maximum les choses bien et à vraiment me concentrer là-dessus. En revanche, ça fait un an là que je suis appelée par d'autres et ça c'est aussi une joie de pouvoir prêter ma voix entre guillemets à des projets dont je suis pas à l'initiative. Et notamment, j'ai la joie de collaborer avec un orchestre 100% féminin de tango contemporain qui s'appelle Fleur Noire, qui a fêté, je crois, ses 20 ans d'existence. Et on est parti notamment en tournée justement au Brésil ensemble et on commence à faire des dates aussi en France. Et c'est une formation qui m'anime beaucoup, puisque c'est justement déjà le fait que ce soit un orchestre 100% féminin. Dans l'histoire du tango, c'est rare et c'est nécessaire et c'est beau, je trouve. Et puis, c'est un tango contemporain, donc un tango d'aujourd'hui qui est nourri de beaucoup d'influences et c'est un bonheur de chanter ce répertoire-là. Et je collabore aussi ponctuellement avec une compagnie marseillaise, que les Marseillais connaissent bien, la compagnie Rassegna, sur un répertoire qui s'appelle Il Sole Non Si Muove, qui est un répertoire du XVIe siècle de la Méditerranée, donc encore autre chose.
André Manoukian parle de Duende Argentin en te mentionnant donc cette grâce des joueurs et danseurs de flamenco. Et il est vrai qu'on peut retrouver cette solennité dans ta danse, dans tes clips, dans ta musique, dans ton œuvre. Qu'en penses-tu de cette comparaison au Duende Argentin de
André Manoukian ? Je trouve qu'André Manoukian est toujours très inspiré dans ses formulations. Et ça a été un plaisir d'ailleurs de collaborer avec lui, pour le coup sur un répertoire totalement différent qui est autour de Serge Gainsbourg. J'ai eu l'occasion de partager la scène avec lui quelques fois, puisqu'il il a un album hommage à Gainsbourg. Oui, bah le duende, c'est difficile à traduire. En plus, le duende, littéralement, c'est l'elfe. Et c'est cette chose un peu qui ne s'explique pas, enfin qui tient un peu de la magie et qui est... Comment expliquer ça ?
Comme tous les duendes autour de toi qui t'encouragent dans ta musique.
Oui, c'est ça. Moi, j'en parle comme des petites fées, mais en fait, c'est peut-être plus des duendes, c'est vrai. C'est des farfadets qui soufflent un vent favorable. Mais j'aime bien. Non, mais j'aime bien sa tournure. Et effectivement, en tout cas, moi, dans ma posture par rapport à ces musiques-là, il y a plein de choses, ces musiques... Et tous les projets auxquels je participe, je parle d'El Cerro et de la Madrugada, il y a en tout cas toujours ce côté inexpliqué, inexplicable, moi qui me plaît beaucoup. Souvent, on me demande est-ce que tu es allé chercher si tu avais des origines argentines lointaines ou est-ce que tu as une explication à pourquoi tu as été attrapé par ces musiques-là. J'ai pas d'explication rationnelle Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est qu'il y a cette magie, cet inexplicable qui fait que ça m'anime pour aller chercher, creuser dans le mystère, mais je cherche pas de réponse. En tout cas, j'ai surtout pas envie de trouver de réponse, je crois.
Alors, est-ce que tu aurais une référence culturelle à nous donner ? Ça peut être une musique, un livre, ça peut être un film, ce que tu veux, qui t'aura marqué, soit au cours de ta vie, soit ces derniers temps, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, pour moi aussi d'ailleurs.
Le plus dur dans ces moments-là, c'est de choisir. C'est horrible, j'ai plein de choses qui défilent. Ouais, si, je sais. Il y a un artiste que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, mais qui me rend dingue. Dans plein de sens du terme, c'est Rodrigo Cuevas. C'est un artiste espagnol qui vient des Asturies. Mm-hmm. Souvent, on dit le Freddie Mercury des Asturies, mais c'est de manière très... très résumé, très limitative. J'aime énormément son travail puisqu'il a ce côté, il fait aussi du collectage mais pas seulement, il a aussi ses œuvres propres, mais il travaille autour du répertoire traditionnel des Asturies et il le réinterprète, le replonge dans une culture complètement actuelle et ça va aussi bien dans la musique que dans tout, comme tu le disais tout à l'heure, et j'essaye de faire ça, mais enfin, à toute autre échelle. Hein. Mais il a aussi cette culture picturale d'aller chercher dans les costumes traditionnels et les détourner. Mmh. Il assume complètement son homosexualité, ce qui a été très compliqué. Il l'explique dans l'endroit dont il est originaire. Ça a été compliqué pendant l'enfance. Et du coup, il l'assume totalement sur scène, dans ses clips, et c'est magnifique, parce qu'il va aller chercher vraiment des éléments très traditionnels pour en faire des choses iconiques de mode, presque, mais toujours avec cette grande conscience du respect qu'il doit à cette tradition. Donc, Rodrigo Cuevas.
Merci beaucoup, Mandy Le Rouge.
Merci pour l'invitation.
Mais de rien. Je te propose d'écouter un artiste argentin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Facundo Cabral, qui a écrit un morceau qui s'appelle « No soy de aquí ni soy de allá ». Je ne suis ni d'ici ni de là-bas. Visiblement, tu connais un petit peu. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler, nous dire deux mots ?
Je connais, c'est un texte qui me touche beaucoup. Je ne suis ni d'ici ni de là-bas. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, beaucoup de gens qui portent un certain exil ou un déracinement ou en tout cas un questionnement sur notre posture par rapport à des origines qui sont soit des racines passées, soit au contraire des choses inexplicables, encore une fois, vers lesquelles on veut aller planter nos racines.
Et je pense que quelque part, notre interview nous mène à cette chanson. Toute cette interview.
Totalement, c'est bien senti, bravo.
Allez, on écoute tout de suite Facundo Cabral.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no. También esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar acostado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí y por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta.
El sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuel. Todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad.
Merci Mandy Lerouge. Je rappelle ces dates le 6 et 7 mars prochain au Théâtre du Briançonnais et à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ce sera le
8 mars.
Le 8 mars.
Au Petit-Duc.
Merci.
Merci beaucoup.